Les maîtres sonneurs, 14e veillée. Je ne vous ferai point le récit de chaque jour que nous passâmes dans la forêt. Ils furent d'abord peu différents les uns des autres. Joseph allait de mieux en mieux, et Thérence voulait qu'on le maintînt dans ses espérances, s'associant toutefois à la résolution que Brulette avait prise de ne point l'encourager à expliquer ses sentiments. La chose n'était guère malaisée à obtenir, car Joseph s'était juré à lui-même de ne rien dire avant le moment où il se croirait digne d'attention, et il eût fallu que Brulette fût provocante avec lui pour lui arracher un mot d'amourette. Pour surplus de précaution, elle s'arrangea de manière à n'être jamais seule avec lui. Elle retint si bien Thérence à son côté que Thérence en vint bientôt à comprendre qu'on ne la trompait point, et qu'on souhaitait même lui laisser gouverner la santé et l'esprit du malade en toutes choses. Ces trois jeunes gens ne s'ennuyaient pas ensemble. Thérence cousait toujours pour Joseph, et Brulette, m'ayant fait acheter un mouchoir de mousseline blanche, se mit à le festonner et à le broder pour en faire offre à Thérence. Car elle y était adroite. Et c'était merveille de voir une fille de campagne faire des ouvrages si fins et si beaux comme elle les faisait. Elle affichait même devant Joseph de n'aimer plus la couture et le soin des nippes afin de se dispenser de travailler pour lui et de le forcer à remercier Thérence qui s'y employait si bien. Mais voyez un peu comme on est ingrat quand on s'est laissé déranger l'esprit par une femelle. Joseph ne regardait quasiment point les doigts de Thérence, usés à son service. Il avait toujours les yeux sur les mains douces de Brulette, et on eût dit qu'à la voir tirer son aiguille, il comptait chaque point comme un moment de son bonheur. Je m'étonnais comment l'amour pouvait ainsi remplir son esprit et occuper tout son temps, sans qu'il songeât seulement à faire quelque ouvrage de ses mains. Quant à moi, j'eus beau essayer de peler de l'osier et de faire des paniers, ou avec des pailles de seigle, des tresses pour les chapeaux, je ne fus point là 2 fois 24 heures sans avoir un si gros ennui que j'en étais malade. Le dimanche est un beau jour, parce qu'il vous repose de 6 jours de fatigue, mais 7 dimanches par semaine, c'est trop pour un homme habitué à faire service de ses membres. Je ne m'en serais point aperçu si l'une de ces belles eût voulu faire attention à moi. Mêmement, la blanche Thérence, avec ses grands yeux, un peu enfoncés, et son signe noir auprès de la bouche, m'aurait bien lapé sur la tête si elle l'eût souhaité. Mais elle n'était point d'une humeur à se laisser détourner de son idée. Elle causait peu, riait encore moins, et si l'on essayait le moindre badinage, elle vous regardait d'un air si étonné qu'elle vous ôtait la hardiesse de lui en donner explication. Si bien qu'après avoir passé 2 jours à fafioter avec ces 3 personnes tranquilles autour des loges, ou à m'asseoir avec elles de place en place dans la forêt, m'étant bien assurée que Brulette était aussi en sûreté en ce pays que dans le nôtre, je commençai à me chercher de l'occupation. Et j'offris au grand bûcheux de l'aider à sa tâche. Il m'y reçut bien, et je commençais à me divertir en sa compagnie. Mais quand je lui eus dit que je ne voulais point être payé et que je bûchais à seule fin de me désennuyer en travaillant, il ne fut plus retenu par son bon cœur qui lui aurait fait excuser mes fautes, et commença de me montrer qu'il n'y avait point d'homme plus mal patient que lui en fait d'ouvrage. Comme je n'étais point là dans mon métier et ne savais pas bien me servir des outils, je le fâchai par la moindre maladresse, et je vis bien qu'il se faisait tant de violence pour ne me point traiter d'imbécile et de lourdeau, que les yeux lui en sortaient de la tête et que la sueur lui en découlait du front. Ne voulant point avoir des mots avec un homme si bon et si agréable en toute autre chose, je m'employai avec les scieurs de long, et je m'en acquittai à leur contentement. Mais là, je connus bien que l'ouvrage est triste et lourd quand ce n'est qu'un exercice de notre corps, et qu'il ne s'y joint pas l'idée d'un profit pour soi-même ou pour les siens. Brulette me dit le 4e jour, « Tiennez, je vois que tu as de l'ennui, et je ne te cache pas que j'en ai aussi ma bonne part. Mais c'est demain dimanche, et il nous faut inventer quelques réjouissances. Je sais que les gens de la forêt se réunissent dans un bel endroit où le grand bûcheux les fait danser. Eh bien, il nous faut acheter du vin et quelques victuailles pour leur donner un plus beau dimanche que de coutume et faire honneur à notre pays chez ces étrangers. Je fis comme Brulette me commandait, et le lendemain, nous étions sur un bel herbage avec tous les ouvriers de la forêt et plusieurs filles et femmes des environs que Thérence avait invitées pour la danse. Le grand bûcheux Cornemuset, sa fille superbe en son attifage bourbonnais, était grandement fêtée, sans se départir de son air sérieux. José, tout enivré des grâces de Brulette, qui n'avait point oublié d'apporter de chez nous un peu de toilette et qui charmait tous les yeux par sa bonne mine et ses jolis airs, la regardait danser. Je me démenais à régaler tout le monde de mes rafraîchissements, et comme je tenais à bien faire les choses, je n'y avais rien épargné. Il m'en coûta bien 3 bons écus de ma poche, mais je n'y ai jamais eu regret, tant on se montra sensible à mes honnêtetés. À l'heure de la vêprée, tout allait au mieux, et chacun disait que de mémoire d'homme, les gens des bois ne s'étaient si bien divertis entre eux. Il y vint même un frère quêteur qui était de passage, et qui, sous prétexte de mendier pour son couvent, remplit fort bien son estomac, et buvait aussi rude que bûcheux ou fendeux qu'il y eut. Ce qui beaucoup me divertissait, encore que ce fût à mes dépens. Car c'était la première fois que je voyais boire un carme, et j'avais toujours ouï dire que pour lever le coude, c'étaient les premiers hommes de la chrétienté. J'étais en train de lui remplir sa tasse, m'ébahissant de ne le pouvoir saouler de boire, quand il se fit dans la danse un grand dérangement et un grand vacarme. Je sortis de la ramée que je m'étais bâtie et où je recevais le monde altéré pour regarder ce que c'était. Et vis une bande de 300 et peut-être 400 mulets qui suivaient un clairin, lequel s'était mis en tête de traverser l'assemblée, et qui, repoussé d'un chacun à beaucoup de pieds et de triques, s'en allait, épeuré, sautant de droite et de gauche, en sorte que les mulets, qui sont animaux têtus et très durs de leurs os, accoutumés de trancher où le clairin tranchait, avaient pris leur passage et mis les danseurs, s'embarrassant peu qu'on leur battît en grange sur les reins, bousculant tout le monde et allant devant eux, comme ils eussent fait en un champ de chardon. Ces bêtes n'allaient pas assez vite, chargées qu'elles étaient, pour qu'on n'eût point le temps de s'engarrer. Il n'y eut donc personne de foulé ni de blessé. Seulement, beaucoup de garçons qui étaient échauffés à la danse, impatientés d'être interrompus dans leur plaisir, tapaient et juraient fort, au point que la chose était divertissante à voir, et que le grand bûcheux s'arrêta de sonner pour se tenir le ventre à force de rire. Mais, connaissant l'air de musique qui rassemble les mules, et que je connaissais aussi pour l'avoir oué en la forêt de Saint-Chartier, le père Bastien sonna en la propre manière qu'il fallait, et tout aussitôt, le clairin et ses suivants, accourant autour de la piotte où il était monté, il se mit à rire de plus belle, d'avoir, au lieu d'une brave compagnie endimanchée, une troupe de bêtes noires à faire danser. Cependant, Brulette, qui, au milieu de la confusion, s'était retirée à côté de moi et de Joseph, paraissait angoissée et ne riait que du bout des dents. « Qu'as-tu ? » lui dis-je. « C'est peut-être notre ami Uriel qui repasse par ici et qui va venir danser avec toi. »« Non, non, » répondit-elle. « Thérence, qui connaît bien les mules de son frère, dit qu'il n'y en a pas une seule à lui dans cette bande. Et d'ailleurs, ce n'est point là son cheval, ni ses chiens. Or, j'ai peur de tous les muletiers, hormis Uriel, et j'ai envie que nous nous retirions d'ici. » Et comme elle disait cela, nous vîmes une vingtaine de muletiers qui débouchaient du bois environnant et venaient pour écarter leurs bêtes et regarder la danse. Je rassurai Brulette, car en plein jour et à la vue de tant de monde, je ne craignais point d'embûches et me sentais bon pour la défendre. Seulement, je lui dis de ne point s'écarter de moi et retournai à ma ramée dont je voyais les muletiers s'approcher avec peu de façon. Et comme ils criaient « À boire ! À boire !» comme gens qui se croient au cabaret, je leur fis observer honnêtement que je ne vendais point le vin et que s'ils le voulaient honnêtement requérir, je serais content de leur donner le coup des vêpres. « C'est donc une noce ?» dit le plus grand de tous, que je reconnus alors à son poil rouge, pour le chef de ceux dont nous avions fait si mauvaise rencontre au bois de la roche. « Noce ou non, lui dis-je, c'est moi qui régale, et c'est de bon cœur envers qui me plaît. Mais... » Il ne me laissa pas achever et répondit. « Nous n'avons pas droit ici, et vous y êtes maître. Merci pour vos bonnes intentions. Mais vous ne nous connaissez point, et devez garder votre vin pour vos amis. » Il dit quelques mots aux autres dans son patois, et les emmena à l'écart, où ils s'assirent par terre et firent leur souper très sagement, tandis que le grand bûcheux alla leur parler et marqua beaucoup d'égards à leur chef, le grand rouge, qui s'appelait Archinia, et passait pour un homme juste autant que peut l'être un muletier. Comme, au reste, ces gens étaient aussi considérés que d'autres par ceux de la forêt, nous nous gardâmes, Brulette et moi, de dire à personne qu'ils nous répugnaient, et elle retourna à la danse sans plus de crainte. Car, sauf le chef, nous n'avions reconnu parmi eux aucun de ceux qui avaient manqué de nous faire un si mauvais parti durant notre voyage. Et en fin de compte, ce chef nous avait sauvés du méchant vouloir de ses compagnons. Plusieurs de ceux qui étaient là savaient cornemuser, non pas comme le grand bûcheux, qui n'avait pas son pareil dans le monde, et qui eût fait sauter les pierres et batifoler les chaînes de la forêt s'il l'eût souhaité, mais beaucoup mieux que Carnat et son garçon, si bien que la musette changea de main et arriva en celle du muletier chef que je vous ai nommé Archinia, tandis que le grand bûcheux, qui avait le cœur et le corps encore jeunes, prit le plaisir de faire danser sa fille, dont, à bon droit, il était aussi fier que chez nous le père Brûlé de la sienne. Mais comme il criait à Brulette de venir lui faire vis-à-vis, un vilain diable, sortant je ne sais d'où, se présenta et la voulut prendre par la main. Encore qu'il commença de faire nuit, Brulette le reconnut tout d'abord pour celui qui, au bois de la roche, avait menacé le plus et même proposé d'assassiner ses deux défenseurs et de les enterrer sous quelque arbre qui n'en dirait mot. La peur et l'aversion lui firent refuser bien vite et se serrer contre moi, qui, ayant épuisé mes provisions, me rendais à la danse avec elle. « Cette fille m'a promis la danse, » dis-je au muletier qui s'y entêtait. « Laissez-nous et cherchez-en une autre. »« C'est bien, » dit-il, « mais quand elle aura balé cette bourrée avec vous, ce sera mon tour. »« Non, » dit Brulette vivement, « j'aimerais mieux ne baler de ma vie. » « C'est ce que nous verrons, » fit-il, et il nous suivit à la danse où il se tint derrière nous, nous critiquant, je pense, en son langage, et lâchant à chaque fois que Brulette repassait devant lui des paroles que ses mauvais yeux me faisaient juger insolentes. « Attends que j'ai fini, » lui dis-je en le heurtant au passage, « je te baillerai ton compte en un langage que ton dos saura bien entendre. » Mais, quand la bourrée fut finie, j'eus beau le chercher, il s'était si bien caché que je ne pus mettre la main dessus. Brulette, voyant comme il était lâche, cessa de le craindre et dansa avec d'autres, qui tous, bien joliment, lui faisaient hommage. Mais, en un moment où je n'avais plus les yeux sur elle, ce coquin la vint me prendre au milieu d'une bande d'autres fillettes, l'attira de force au milieu du bal, et, profitant de la nuit qui empêchait de voir la résistance de Brulette, il la voulut embrasser. En ce moment, j'accourais, ne voyant pas bien et m'imaginant d'entendre Brulette m'appeler. Mais je n'eus point le temps de lui faire justice moi-même, car, devant que cette laide figure en charbonnet eût touché la sienne, l'homme reçut au chagnon du cou une si jolie empoignade que les yeux durent lui en grossir comme ceux d'un rat pris au pilon. Brulette, croyant que ce secours lui venait de moi, se jeta vivement au bras de son défenseur, et bien étonnée fut de se trouver dans ceux d'Huriel. Je voulus profiter de ce que notre ami était embarrassé de ses mains pour empoigner à mon tour le méchant coquin, et je lui aurais payé tout ce que je lui devais si le monde ne se fût mis entre nous. Et comme cet homme nous accagnait de sottises, nous traitant de lâches, pour nous être mis deux contre lui, la musique s'arrêta. On se rassembla sur le lieu de la querelle, et le grand bûcheux vint avec le grand archignat, l'un défendant aux muletiers, l'autre aux bûcheux et fendeux, de prendre parti avant que l'affaire fût éclaircie. Malzac, c'était le nom de notre ennemi, et il avait une langue aussi mauvaise que celle d'un aspic, porta sa plainte le premier, prétendit qu'il avait honnêtement invité la Berrichonne, qu'en l'embrassant il n'avait fait qu'user du droit et de la coutume de la bourrée, et que deux galants de cette fille, à savoir Huriel et moi, l'avions pris en traître et mauvaisement frappé. « Le fait est faux, répondis-je, et c'est à mon grand regret que je n'ai point roué de coups celui qui vous parle. Mais la vérité est que je suis arrivé trop tard pour le prendre, soit en franchise, soit en trahison, et qu'on m'a retenu la main au moment où j'allais cogner. Je vous dis la chose comme elle est. Mais lâchez-moi, et je ne le ferai point mentir. » « Et quant à moi, dit Huriel, je l'ai pris au collet comme on prend un lièvre, mais sans le frapper, et ce n'est pas ma faute si ses habits n'ont pas garanti sa peau. Mais je lui dois une meilleure leçon, et ne suis venu ici ce soir que pour en trouver l'occasion. Or donc, je demande à maître Archignat, mon chef, ainsi qu'à maître Bastien, mon père, d'être entendu sur l'heure ou après la fête, et de me faire justice si mon droit est reconnu bon. » Là-dessus arriva le frère Capucin, qui voulut prêcher la paix chrétienne. Mais il avait trop fêté le vin bourbonnais pour mener bien subtilement sa langue, et il ne put se faire entendre dans le bruit. « Silence !» cria le grand bûcheux d'une voix qui eut couvert le tonnerre du ciel. « Écartez-vous tous, et laissez-nous régler nos affaires. Vous pouvez écouter, mais non point prendre voix à ce chapitre. Ici, tous les muletiers, pour Malzac et Huriel. Ici, moi et les anciens de la forêt, servant de parrain et juge à ce garçon du Berry. Parle, Tiennet, et porte ta plainte. Quelle raison avais-tu d'en vouloir à ce muletier? Si c'est pour avoir tenté d'embrasser ta payse à la danse, je sais que c'est la coutume en ton endroit comme chez nous. Ça ne suffirait donc pas pour avoir eu même l'intention de frapper un homme. Dis-nous le sujet de ton dépit contre lui. C'est par là qu'il faut commencer. » Je ne me fis point prier pour parler, et, malgré que l'assemblée des muletiers et des anciens me causât un peu de trouble, je sus assez bien dérouiller ma langue pour raconter, comme il faut, l'histoire du bois de la Roche, et invoquer le témoignage du chef Archignat lui-même, à qui je rendis justice. Peut-être un peu meilleur qu'il ne la méritait, mais je voyais bien que je ne devais point jeter de blâme sur lui pour me l'avoir favorable, et je lui montrai en cela que les Berrichons ne sont pas plus sots que d'autres, ni plus aisés à mettre dans leur tort. Tous les assistants, qui déjà faisaient bonne estime de Brulette et de moi, réprouvèrent la conduite de Malzac. Mais le grand bûcheux réclama encore le silence et, s'adressant à maître Archignat, lui demanda s'il y avait du faux dans mon rapport. Ce grand compère rouge était un homme fin et prudent. Il avait la figure aussi blanche qu'un linge et, quelque dépit qu'on lui pût causer, il ne paraissait pas avoir une goutte de sang de plus ou de moins dans le corps. Ses yeux verrons étaient assez doux et n'annonçaient point la fausseté. Mais sa bouche, qui était à moitié cachée sous sa barbe de renard, souriait de temps en temps d'un air sot qui cachait mal un bon fond de malice. Il n'aimait point Huriel, mais il faisait tout comme, et il passait pour se conduire en homme juste. Au fond, c'était le plus grand pillard qu'il y eût, et sa conscience mettait les intérêts de sa confrérie au-dessus de tout. On l'avait pris pour chef à cause de la froideur de son sang, qui lui permettait d'opérer par la ruse, et par là, d'éviter à sa bande les querelles, voire les procédures, où il passait pour être aussi clair qu'un procureur. Il ne répondit rien à la question du grand bûcheux, et on n'eût su dire si c'était bêtise ou prudence, car tant plus il avait l'esprit éveillé, tant plus il se donnait l'air d'un homme endormi, qui rêvasse en lui-même et n'entend point ce qu'on lui demande. Il se contenta de faire un signe à Huriel, comme pour lui demander si le témoignage qu'il allait faire serait conforme au sien. Mais Huriel, qui, sans être sournois, était aussi bien avisé que lui, répondit « Maître, vous avez été invoqué comme témoin par ce garçon. S'il vous plaît de lui donner raison, je n'ai pas à vous confirmer dans la vérité de vos paroles. Et s'il vous convient de lui donner tort, les coutumes de ma confrérie me défendent de vous porter un démenti. Personne, ici, n'a rien à voir dans nos affaires. Et si Malzac a été blâmable, je sais d'avance que vous l'aurez blâmé. Mais il s'agit pour moi d'une autre affaire. Dans la question que nous avons eue ensemble devant vous au bois de la Roche, et dont je ne suis point appelé à dire le motif, Malzac m'a, par 3 fois, dit que je mentais, et menacé personnellement. Je ne sais si vous y avez fait attention, mais je le déclare par serment. Et comme je m'en trouve offensé et déshonoré, je réclame le droit de bataille, selon la coutume de notre ordre. » Archignat consulta tout bas les autres muletiers, et il paraît que tous approuvèrent Huriel, car ils se formèrent en rond, et le chef dit un seul mot « Allez !» Sur quoi Malzac et Huriel se mirent en présence. « Je voulais m'y opposer, disant que c'était à moi de venger ma cousine, et que la plainte que j'avais portée était d'une plus grande conséquence que celle d'Huriel. Mais Archignat me repoussa en disant « « Si Huriel est battu, tu te présenteras après lui. Mais si c'est Malzac qui a le dessous, il faudra bien que tu te contentes de ce que tu auras vu faire. »« Que les femmes se retirent !» cria le grand bûcheux. « Elles sont de trop ici !» Et en disant cela, il était pâle. Mais il ne reculait point devant le danger que son fils pouvait courir. « Qu'elles se retirent si elles veulent !» dit Terence, qui était aussi pâle, mais aussi ferme que lui. « Moi, je dois être là pour mon frère, s'il y a du sang à arrêter. » Brulette, plus morte que vive, suppliait Huriel et moi de ne pas donner suite à la querelle. Mais il était trop tard pour l'écouter. Je la confiai à Joseph, qui l'emmena à distance, et, posant ma veste, je me tins prêt à venger Huriel s'il avait le dessous. Je ne savais point quel serait le combat, et je regardais bien, pour n'être pas pris au dépourvu quand mon tour viendrait. On avait allumé 2 torchères de résine et mesuré avec des pas la place dont les 2 combattants ne devaient point sortir. On leur donna à chacun un bâton de courza, noueux et court, et le grand bûcheux assista maître Archignat dans toutes ses préparations, avec une tranquillité qu'il n'avait guère dans le cœur, et qui faisait de la peine à voir. Malzac, petit et maigre, n'était pas aussi fort qu'Huriel, mais il était plus vif de ses mouvements et connaissait mieux la bataille. Car Huriel, encore qu'adroit au bâton, était d'un naturel si bon qu'il avait eu bien peu souvent l'occasion de s'en servir. Voilà ce qu'il me fut dit pendant qu'il commençait à se tâter. Et j'avoue que le cœur me battait fort, autant de crainte pour Huriel que de colère contre son ennemi. Pendant 2 ou 3 minutes, qui me parurent des heures d'horloge, aucun coup ne porta, étant bien paré de part et d'autre. Enfin, on commença à entendre que le bois ne frappait plus toujours le bois, et le bruit sourd que faisaient ses bâtons sur les corps qu'il rencontrait me donnait chaque fois comme une sueur froide. Dans notre pays, on ne se bat jamais comme cela, dans les règles, avec d'autres armes que les poignets, et je confesse que je n'avais pas l'esprit endurci à l'idée des têtes fendues et des mâchoires brisées. Jamais tant ne m'a paru plus long et souffrance pire que dans cette occasion-là. À voir Malzac si adroit, je tremblais de peur pour moi aussi peut-être, mais, en même temps, j'avais tant de rage de ne pouvoir m'en mêler que, si on ne m'eût retenu, je me serais jeté au milieu. La chose me faisait dégoût, malice et pitié, et pourtant j'ouvrais la bouche et les yeux pour n'en rien perdre, car le vent secouait les torches, et par moments on ne voyait quasi plus rien qu'un moulinet blanchâtre autour des batailleurs. Mais voilà que l'un des deux fit entendre un soupir, comme celui d'un arbre cassé en deux par un coup de vent, et roula dans la poussière. Lequel était-ce? Je ne voyais plus, j'avais des orblutes dans les yeux. Mais j'entendis la voix de Thérence qui disait « Dieu soit béni, mon frère a gagné !» Je recommençai à voir clair. Huriel était debout et attendait, en franc compagnon, que l'autre se relevât, sans pourtant l'approcher, dans la crainte d'une trahison dont il le savait bien capable. Mais Malzac ne se releva point, et Archinia, faisant défense à personne de bouger, l'appela par trois fois. Il n'en eut point de réponse, et s'avança jusqu'à lui, disant « Malzac, c'est moi, ne touchez point !» Malzac ne parut pas en avoir grande envie, car il ne se mut non plus qu'une pierre. Et le chef, se penchant sur lui, le toucha, le regarda, et, appelant par leur nom deux muletiers, leur dit « C'est partie perdue pour lui, faites ce qui est à faire !» Aussitôt ils le prirent par les pieds et la tête, et s'en allèrent, toujours courant, suivis des autres muletiers, qui s'enfoncèrent dans la forêt, défendant à tout ce qui n'était pas de leur bande de s'enquérir du résultat de l'affaire. Maître Archinia les suivit le dernier, après avoir parlé dans l'oreille du grand bûcheux, qui lui répondit seulement « Ça suffit, adieu !» Thérence s'était attachée à son frère et lui essuyait la sueur de la figure avec son mouchoir, lui demandant s'il était blessé et le voulant retenir pour l'examiner. Mais il lui parla aussi dans l'oreille, et au premier mot elle lui répondit « Oui, oui, adieu !» Alors Huriel prit le bras de maître Archinia, et tous deux disparurent aussitôt dans l'ombre, car, du pied en se sauvant, ils renversèrent les torches. Et je me sentis comme quand, d'un mauvais rêve tout plein de bruits et de clarté, on s'éveille dans le silence et l'épaisseur de la nuit. 15e veillée. Cependant, ma vue s'éclaircit peu à peu, et mes pieds, que la souleur tenait comme chevillés en terre, me permirent de suivre le grand bûcheux qui m'entraînait du côté des loges. Je fus alors bien étonné de voir que nous étions seuls avec sa fille, Joseph, Brulette et les trois ou quatre anciens qui avaient assisté au combat. Tout le reste du monde s'était en sauvé, sitôt qu'on avait vu prendre les bâtons, afin de n'avoir point à témoigner en justice si l'affaire tournait mal. Les gens des bois ne se trahissent point les uns les autres, et pour n'avoir point à être appelés et tourmentés par les hommes de loi, ils s'arrangent pour ne rien savoir et n'avoir rien à dire. Le grand bûcheux parla aux anciens dans leur langage, et je les vis retourner sur le lieu du combat, sans pouvoir m'imaginer ce qu'ils y voulaient faire. Je suivis Joseph et les femmes, et nous revînmes aux loges, sans nous dire un mot les uns aux autres. Quant à moi, j'avais été si secoué en moi-même que je ne me sentais point en train de causer. Quand nous fûmes rentrés dans la loge, nous étions tous si blêmes que nous nous fîmes quasiment peur. Le grand bûcheux, qui nous avait rejoints, s'assit, l'air pensif et les yeux fichés en terre. Brulette, qui avait fait un grand effort pour ne questionner personne, fondit en larmes dans un coin. Joseph, comme accablé de fatigue et de soucis, s'étendit de tout son long sur le lit de fougère. Thérence seule allait et venait pour préparer la couchée. Mais elle avait les dents serrées, et quand elle faisait effort pour parler, il semblait qu'elle fût devenue bègue. Mais, au bout de quelques moments donnés à la réflexion ou à l'inquiétude, le grand bûcheux se leva et, nous regardant tous, « Eh bien, mes enfants, nous dit-il, qu'est-ce qu'il y a donc ? Une leçon a été donnée, en toute justice, à un mauvais homme, connu dans tous ses passages pour quelque méchante action, et qui avait abandonné sa femme, laquelle en est morte de misère et de chagrin. Il y a longtemps que ce Malzac déshonorait le corps des muletiers, et s'il fût mort, personne ne l'eût pleuré. Faut-il que nous soyons tristes et tourmentés pour quelque bon coup que mon fils Uriel lui a porté en franche bataille ? Pourquoi pleurez-vous, Brulette ? Avez-vous le cœur si doux que vous plaignez le vaincu ? Et ne jugez-vous point que mon fils a bien fait de venger votre honneur et le sien ? Il m'avait tout raconté, et je savais que, par prudence pour vous, il n'avait pas voulu punir sur l'heure le méfait de son confrère. Il aurait même souhaité que Tiennet n'en parlât point, et n'y fût pour rien. Mais moi, qui ne voulais point de manquement à la vérité, j'ai laissé parler Tiennet comme il a cru devoir faire. Je suis content qu'il n'ait pas pu s'exposer dans une bataille très dangereuse pour celui qui n'en connaît point les feintes. Je suis content aussi que la bonne chance ait été pour mon fils, car entre un homme juste et un mauvais chrétien, j'aurais pris parti dans mon cœur pour le juste, encore qu'il n'eût point été le sang de mon sang et la chair de ma chair. Par ainsi, remercions Dieu qui a bien jugé, et lui demandons d'être toujours pour nous, en ceci et en toute chose. » Et le grand bûcheux se mit à genoux et fit avec nous la prière du soir, dont chacun se sentit réconforté et tranquillisé. Puis, on se sépara de bonne amitié pour prendre du repos. Je ne fus pas longtemps sans entendre que le grand bûcheux, dont je partageais toujours la chambrette, dormait dur, malgré un peu d'angoisse dans ses rêvasseries. Mais, dans la loge des filles, j'entendais toujours pleurer Brulette, qui en était malade et ne se pouvait remettre. Et comme elle parlait avec Thérence, j'approchai mon oreille tout près de la cloison, non point par curiosité, mais par souci de sa peine. « Allons, allons, rentrez vos pleurs et vous endormez, » disait Thérence d'un ton décidé. « Les larmes ne servent de rien, et je vous l'ai dit, il faut que j'y aille. Si vous réveillez mon père, qui ne le sait point blessé, il voudra y aller, et ça peut le compromettre dans une mauvaise affaire, au lieu que moi je n'y risque rien. » « Vous me faites peur, Thérence. Comment irez-vous toute seule trouver ces muletiers ? Tenez, ils m'effrayent toujours beaucoup. Et pourtant, j'y veux aller avec vous. Je le dois, puisque c'est moi qui suis la cause de la bataille. Nous appellerons Tiennet. » « non pas, ni vous, ni lui. Les muletiers ne regretteront pas Malzac s'il en meurt, bien au contraire. Mais s'il avait été mis à mal par quelqu'un qui ne fut pas de leur corps, et surtout par un étranger. À l'heure qu'il est, votre ami Tiennet serait en mauvaise passe. Laissez-le donc dormir. C'est assez qu'il ait voulu s'en mêler, pour qu'il fasse bien à présent de se tenir tranquille. Quant à vous, Brulette, sachez bien que vous y seriez mal reçue, puisque vous n'avez pas, comme moi, un intérêt de famille qui vous y attire, et où personne chez eux ne s'avisera de me contrecarrer. Ils me connaissent tous, et ne craignent pas que je sois de trop dans leurs secrets. Mais croyez-vous donc les trouver encore dans la forêt ? Votre père n'a-t-il pas dit qu'il s'en allait dans le haut pays et ne passerait pas la nuit dans les environs ? Il faut toujours qu'ils y restent le temps de panser les blessés. Mais si je ne les trouvais plus, je serais tranquille, car ce serait la preuve que mon frère n'a que peu de mal et qu'il aurait pu se mettre en route avec eux tout de suite. « Est-ce que vous l'avez vue, cette blessure ? Dites, ma chère Thérence, ne me cachez rien. » « Je ne l'ai pas vue, on ne voyait rien. Il disait n'avoir reçu aucun mauvais coup et ne pensait point à lui-même. Mais regardez, Brulette, et ne vous écriez pas. Voilà le mouchoir dont je lui ai essuyé la figure et que je croyais mouillé de sa sueur. J'ai vu, en arrivant ici, qu'il était tout trempé de son sang. et il m'a fallu du courage pour retenir mon saisissement devant mon père, qui était bien assez soucieux, et devant Joseph, qui est bien assez malade. » Il se fit un silence, comme si Brulette, en regardant ou en prenant le mouchoir, eût été suffoquée. Puis Thérence lui dit « Rendez-le-moi, il faut que je le lave dans le premier ruisseau que je rencontrerai. » « Ah !» dit Brulette, « laissez-le-moi garder, je le tiendrai bien caché. » « Non, mon enfant, » répondit Thérence, « si les gens de justice avaient l'éveil de quelque bataille, ils viendraient tout bousculer ici, et mêmement fouiller les personnes. Ils sont devenus très tracassiers depuis quelque temps, et voudraient nous faire renoncer à nos coutumes, qui se perdent bien assez d'elles-mêmes sans qu'ils y mettent la main. » « Hélas !» dit Brulette, « ne serait-il pas à souhaiter que la coutume de bataille aussi dangereuse fût ôtée de votre pays ?»« Oui, mais cela dépend de bien des choses auxquelles les juges du roi ne peuvent ou ne veulent rien. Il faudrait qu'ils rendissent la justice, et ils ne la rendent guère qu'à ceux qui ont le moyen de la payer. En est-il autrement dans vos pays ?»« Vous n'en savez rien, mais je gage bien que c'est comme chez nous. Seulement, les Berrichons ont le sang très lourd, et ils patientent avec le mal qu'on peut leur faire, sans s'exposer à en chercher un pire. Ici, ce n'est point de même. L'homme qui vit dans les forêts, s'il ne se défendait point des méchants comme des loups et des autres mauvaises bêtes, ne pourrait point exister. Est-ce que, par hasard, vous blâmeriez mon frère d'avoir demandé justice devant son monde, d'une injure et d'une menace qu'il avait été forcé d'endurer devant vous? Il y a peut-être bien eu un peu de votre faute, dans la rancune qu'il en avait gardée. Songez à cela, Brulette, avant de l'accuser. Si vous n'aviez pas marqué tant de chagrin et de dépit pour les insultes de ce muletier, il les aurait peut-être oubliées pour sa part. Car il n'y a pas homme plus doux qu'Uriel, et plus enclin à pardonner. Mais vous vous teniez pour offensé. Il vous avait promis réparation. Il vous l'a baillé bonne. Ce n'est pas un reproche que je vous fais, ni à lui non plus. J'aurais peut-être été aussi chatouilleuse que vous. Et quant à lui, il a fait son devoir. » « Non, non, » dit Brulette, se remettant à pleurer. « Il ne me devait point de s'exposer pour moi comme il l'a fait, et j'ai eu tort de lui montrer ma fierté. Je ne me le pardonnerai jamais. » Et s'il lui arrive malheur d'une manière ou de l'autre, votre père et vous, qui avez été si bons pour moi, ne pourrez non plus me faire grâce. » « Ne vous tourmentez pas de cela, » répondit Thérence. « Arrive ce que Dieu voudra, vous n'aurez point de reproche de nous. Je vous connais à présent, Brulette, et je sais que vous méritez l'estime. Allons, essuyez vos larmes et tâchez de vous reposer. J'espère que je n'aurai pas de mauvaises nouvelles à vous rapporter, et je suis sûre que mon frère sera consolé et guéri à moitié si vous me permettez de lui dire le chagrin que vous cause son mal. » « Je pense, dit Brulette, qu'il y sera moins sensible qu'à votre amitié, et qu'il n'y a point de femme au monde qu'il puisse aimer autant qu'une sœur si bonne et d'un si grand courage. C'est pourquoi, Thérence, je me reproche de vous avoir demandé votre gage de première communion, et s'il lui prenait envie de le ravoir, je pense que vous feriez bien de le lui rendre, puisque vous l'avez à votre collier. » « À la bonne heure, Brulette, » dit Thérence, « et pour cette parole, je vous embrasse. Dormez en paix, je pars. » « Je ne dormirai pas, » répondit Brulette. « Je prierai Dieu de vous assister jusqu'à ce que je vous voie de retour. » J'entendis Thérence sortir doucement de sa loge et j'en fis autant une minute après. Je ne pouvais point m'accommoder la conscience de l'idée que cette belle jeunesse allait ainsi s'exposer toute seule au danger de la nuit et que, par crainte pour moi-même, je ne ferais pas ce qui était en moi pour lui porter assistance. Les gens qu'elle allait trouver ne me paraissaient pas si commodes et si bons chrétiens qu'elle le disait. Et d'ailleurs, ils n'étaient peut-être pas les seuls à battre les bois à cette heure. Notre danse avait attiré des grelots, et l'on sait que tous ceux qui demandent la charité ne la font pas aux autres quand l'occasion du mal leur est belle. Et puis, je ne sais pas pourquoi, la figure rouge et luisante du frère Carme, qui avait si bien fêté mon vin, me revenait en mémoire. Il m'avait semblé ne pas baisser souvent les yeux quand il passait auprès des filles, et je ne savais pas ce qu'il était devenu dans la bagarre. Mais comme Thérence avait témoigné à Brulette ne vouloir point de ma compagnie pour aller trouver les muletiers, souhaitant ne pas lui déplaire, je me déterminai de la suivre à portée de louis, sans me montrer à elle, si elle n'avait pas occasion de crier à l'aide. À cette fin, je lui laissai donc prendre environ 1 minute d'avance, mais pas davantage. Encore que j'eusse aimé à tranquilliser Brulette en lui disant mon dessein. J'aurais craint de me retarder et de perdre la piste de la Belle des Bois. Je la vis traverser la clairière et entrer dans le taillis qui descendait vers le lit d'un ruisseau, non loin des loges. J'y entrai après elle, par le même sentier, et comme il s'y trouvait beaucoup de crochets, je la perdis bien vite de vue. Mais j'entendais le petit bruit de son pas, qui de temps en temps cassait une branche morte par terre ou faisait rouler un petit caillou. Il me sembla qu'elle marchait vite, et j'en fis autant pour ne me point trop laisser dépasser. 2 ou 3 fois, je me crus si près d'elle que je me détardais un peu pour ne pas me faire voir. J'arrivai ainsi à l'une des routes tracées dans le bois, mais l'ombrage de la futaie y régnait si dru que j'eus beau regarder à ma droite et à ma gauche, je ne pus rien voir qui me fît connaître quel côté elle avait pris. J'écoutais, l'oreille penchée vers la terre, et j'entendis, dans la sente qui continuait de l'autre côté du chemin, le même bruit de branches qui m'avait déjà servi. Je me hâtai d'aller par là, jusqu'à un autre chemin qui me conduisit au ruisseau. Et là, je commençai à croire que je n'étais plus sur la trace de Thérence, car le ruisseau était large et vaseux, et quand je l'eus passé, en y enfonçant beaucoup, je ne trouvai plus aucune trace frayée. Il n'y a rien qui trompe comme les sentiers des bois. En des endroits, les arbres se trouvent plantés de manière qu'on croit avoir trouvé une allée, ou bien les animaux, en allant boire à quelque mare, ont battu un passage. Mais tout à coup, on se trouve pris dans des ronces si méchantes ou enfoncé dans un terrain si mouvant que rien ne sert de s'y obstiner. On n'y entrerait que pour s'y égarer de plus en plus. Cependant, je m'y entêtais, parce que j'entendais toujours du bruit devant moi. Et même ce bruit devint si certain que je me mis de courir, me déchirant aux épines et m'enfonçant au plus épais. Mais une manière de grognement sauvage que j'entendis me fit connaître que ce que je poursuivais était un sanglier, qui commençait à s'ennuyer de moi et à m'avertir qu'il en avait assez. N'ayant qu'un bâton pour défense, et ne connaissant d'ailleurs point la manière d'avoir raison d'une pareille bête, je quittai la partie et revins sur mes pas. Un peu inquiet que ce sanglier ne s'imaginât, par honnêteté, de me vouloir faire la conduite. Par bonheur, il n'y songea point, et je remontai jusqu'au premier chemin, d'où, à tout hasard, je tirai du côté qui conduisait à l'entrée du bois de Chambérat, où nous avions fait la fête. Encore que dérouté, je ne voulus point renoncer à mon idée, car Thérence pouvait aussi bien que moi faire rencontre d'une bête sauvage, et je ne pense point qu'elle sût des paroles pour s'en faire écouter. Je connaissais déjà assez la forêt pour ne m'y point perdre longtemps, et je gagnai l'endroit de la danse. Il me fallut quelques moments pour m'assurer que c'était bien la même clairière, car j'avais compté y retrouver ma ramée que je n'avais pas pris le temps d'enlever, non plus que les ustensiles dont je l'avais garnie, et j'en trouvai la place aussi nette que si elle n'y eût jamais été. Cependant, en y regardant bien, je reconnus l'endroit où j'avais enfoncé les pieux et celui où les pieds des danseurs avaient brûlé le gazon. Je voulus me remettre en route vers le côté par où les muletiers avaient emmené Huriel et emporté Malzac. Mais j'eus beau chercher à m'en souvenir, j'avais été si empêché de mes esprits dans ce moment-là que je ne pus m'en faire une idée. Force me fut d'aller à l'aventure. et je marchai ainsi toute la nuit, bien là, comme vous pouvez croire, m'arrêtant souvent pour écouter, et n'entendant que les chevêches qui criaient dans les arbres, ou quelques pauvres lièvres qui avaient plus peur de moi que moi de lui. Encore que le bois de Chambéra ne fît dans ce temps-là qu'un seul bois avec celui de l'Alleu, je ne le connaissais pas, n'ayant été qu'une fois depuis que j'étais en ce pays. Je ne fus pas longtemps sans m'y trouver perdu, chose qui ne me tourmenta guère, car je savais que ni l'un ni l'autre de ces bois n'était d'une conséquence à me mener jusqu'à Rome. D'ailleurs, le grand bûcheux m'avait déjà appris à m'orienter, non par les étoiles, qui ne se voient pas toujours en une forêt, mais par la direction des maîtresses branches, lesquelles, en nos pays du mi-temps, sont souvent battues du vent de Galerne et s'étendent plus volontiers vers le levant du jour. La nuit était très claire et si douce que, si je n'eusse été galopé de quelques soucis d'esprit et fatigué de mon corps, j'aurais pris aise à la promenade. Il ne faisait point clair de lune, mais les étoiles brillaient dans le ciel, qui n'était embrouillé d'aucune nuée. Et, mêmement sous la feuillée, je voyais très bien me conduire. Je m'étais fort amendé en courage, depuis le temps où j'avais peur en la petite forêt de Saint-Chartier, car, tout au rebours, je me sentais aussi tranquille que dans nos traînes, et voyant fuir les animaux à mon approche, je ne m'en souciais plus du tout. Je commençais aussi à reconnaître que ces endroits couverts, ces ruisseaux grouillants dans les ravines, ces herbages fins, ces chemins de sable, et tous ces arbres d'un beau croix et d'une grande fierté, pouvaient faire aimer ce pays à ceux qui en étaient. Il y avait de grandes fleurs dont je ne sais point le nom, qui sont comme gueules blanches picotées de jaune, et dont l'odeur est si vive et si bonne que par moments je me serais cru en un jardin. En marchant toujours vers le couchant, je gagnai les brandes et suivis longtemps la lisière, écoutant et regardant partout. Mais je ne rencontrai signe de monde en aucun lieu, et m'en revins sur la pique du jour, sans avoir trouvé ni Thérence, ni personne à parler. Comme j'en avais assez et ne conservais plus espoir de m'utiliser, je rentrai sous bois, et, coupant tout à travers, je vis enfin, dans un endroit très sauvage, sous un gros chêne, quelque chose qui me parut être quelqu'un. Le petit jour grisonnait jusque sur les buissons, et je m'avançai sans bruit jusqu'à portée de reconnaître le froc du frère Carme. Ce pauvre homme, que j'avais soupçonné dans mon esprit, était bien sagement et dévotement agenouillé et faisait ses prières sans paraître penser à mal. Je m'approchai en toussant pour l'avertir et ne le point effrayer. Mais ce n'était pas de besoin, car ce moine était un compère, ne craignant que Dieu, et pas du tout le diable ni les hommes. Il leva la tête, me regarda sans étonnement, puis, renfonçant sa figure sous son capuchon, se remit à marmonner tout bas ses orémus, et je ne voyais que le bout de sa barbe qui dansait à chaque parole, comme celle d'une chèvre qui croque du sel. Quand il me parut avoir fini, je lui souhaitai bonne matine, espérant avoir de lui quelques nouvelles. Mais il me fit signe de me taire, se leva, ramassa sa besace, regarda bien la place où il s'était agenouillé, et, avec son pied quasi nu, releva l'herbe et nivela le sable qu'il avait foulé. Puis, il m'emmena à une petite distance et me dit à voix couverte « Puisque vous savez ce qui en est, je ne suis pas fâché de vous parler avant que je reprenne ma tournée. » Le voyant en humeur de causer, je me gardai de le questionner, ce qui l'eût rendu peut-être plus méfiant. Mais, au moment qu'il ouvrait la bouche, Huriel se montra devant nous, et parut si surpris et même contrarié de me voir là, que j'en fus embarrassé de mon côté, comme si j'étais pris en faute. Il faut dire aussi qu'Huriel m'eût peut-être effrayé si je l'eusse rencontré seul à seul dans la brume du matin. Il était plus barbouillé de noir que je ne l'avais encore vu, et un mouchoir, serré sur sa tête, cachait si bien ses cheveux et son front qu'on ne voyait guère de sa figure que ses grands yeux, qui paraissaient creusés et qui avaient perdu leur feu ordinaire. Il avait l'air d'être son propre esprit plutôt que son propre corps, tant il glissait doucement sur les bruyères, comme s'il eût craint d'éveiller même les grelets et les moucherons cachés dans l'herbe. Le moine prit le premier la parole, non pas comme un homme qui en accoste un autre, mais comme celui qui reprend un entretien après un peu de dérangement. « Puisque le voilà, dit-il en me montrant, il est utile de lui faire des recommandations sérieuses, et j'étais en train de lui dire « Puisque vous lui avez tout dit, reprit Huriel en lui coupant la parole d'un air de reproche. À mon tour, je coupai la parole à Huriel pour lui apprendre que je ne savais encore rien et qu'il était libre de me cacher ce qu'il avait sur le bout de la langue. « C'est bien à toi, répondit Huriel, de ne pas chercher à en savoir plus long qu'il ne faut. Mais si c'est ainsi, frère Nicolas, que vous gardez un secret de cette conséquence, je regrette de m'être fié à vous. « Ne craignez rien, dit le carme. Je croyais ce jeune homme aussi compromis que vous. « Il ne l'est pas du tout, dit Huriel. Dieu merci, c'est assez de moi. « Tant mieux pour lui s'il n'a péché que par intention, reprit le moine. Il est votre ami et vous n'avez rien à en craindre. Mais quant à moi, je serais bien aise qu'il ne dit à personne que j'ai passé la nuit dans ces bois.
« Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
Dit Huriel. « Un muletier a été blessé par accident. Vous lui avez donné des soins, et grâce à vous, il sera vite guéri. Qui peut vous blâmer de cette charité ?»« Oui, oui, dit le moine. Gardez bien la fiole, et usez-en deux fois par jour. Lavez bien la plaie à l'eau courante, aussi souvent que faire se pourra. Ne laissez point les cheveux s'y coller, et tenez-la à couvert de la poussière. C'est tout ce qu'il faut. Si vous veniez à prendre la fièvre, faites-vous faire une bonne saignée par le premier frater que vous rencontrerez.
« Merci, dit Huriel. J'ai assez perdu de sang comme cela, et ne crois point qu'on en ait jamais trop.
Grâce vous soit rendue, mon frère, pour vos bons secours, dont je n'avais pas grand besoin, mais dont je ne vous sais pas moins de gré. Et à présent, recevez nos adieux, car voilà qu'il fait jour. » Et votre prière vous a retenu ici un peu trop.
Sans doute, reprit le moine, mais me laisserez-vous partir sans me faire un bout de confession? J'ai soigné votre peau, c'était le plus pressé, mais votre conscience est-elle en meilleur état? Et pensez-vous n'avoir pas besoin de l'absolution, qui est pour l'âme ce que le baume est pour le corps?
J'en aurais grand besoin, mon père, dit Huriel, mais vous auriez tort de me la donner. Je n'en suis pas digne avant d'avoir fait pénitence. Et quant à ma confession, vous n'en avez que faire pour me prêcher, vous qui m'avez vu pécher mortellement. Priez Dieu pour moi, voilà ce que je vous demande, et faites dire beaucoup de messes pour les gens qui se laissent trop emporter à la colère. » J'avais cru d'abord que le muletier plaisantait, mais je connus que non, à la manière triste dont il parla, et à l'argent qu'il remit au carme en finissant son discours. « Croyez que vous en aurez selon votre générosité, » dit le carme en serrant l'argent dans son aumônière. Et il ajouta d'un air qui ne sentait point le cagot, « Maître Huriel, nous sommes tous pécheurs, et il n'y a qu'un juge qui soit juste. Lui seul, qui n'a jamais fait de mal, est en droit de condamner ou d'absoudre les fautes des hommes. » Recommandez-vous à lui, et comptez que tout ce qui est à votre décharge, il vous en fera profiter dans sa miséricorde. Quant au juge de la terre, bien sot et bien lâche serait celui qui voudrait vous envoyer devant eux, qui sont faibles ou endurcis comme des créatures fragiles. Repentez-vous, vous aurez raison, mais ne vous trahissez pas, et quand vous sentirez la grâce vous appeler au tribunal de pénitence, n'ayez affaire qu'un bon prêtre, voire un pauvre carme déchaussé comme le frère Nicolas. Et vous, mon enfant, dit encore le bonhomme, qui se sentait en goût de prêcher et qui voulut me donner aussi son coup de goupillon. Apprenez à modérer vos appétits et à surmonter vos passions.
évitez les occasions de péché, fuyez les querelles et les rixes sanglantes. »
C'est bon, frère Nicolas, » dit Huriel en l'interrompant. « Vous prêchez un converti, et vous n'avez pas de pénitence à commander à celui dont les mains sont restées pures. Adieu. Partez, je vous dis, il est temps. »
Le moine s'en alla en nous donnant la main d'un grand air de franchise et de bonté. Quand il fut loin, Huriel, me prenant le bras, me ramena vers l'arbre où j'avais vu le carme en prière.
« Tiennet, me dit-il, je n'ai aucune méfiance de toi, et si j'ai fait semblant de rappeler ce bon frère au silence, c'est pour le rendre prudent. Au reste, il n'y a guère de danger de son côté. Il est le propre oncle de notre chef Archinia, et c'est, en outre, un homme sûr, toujours en bonne relation avec les muletiers, qu'il aide souvent à transporter les denrées de sa collecte d'un lieu à l'autre. Mais si je suis tranquille sur lui et sur toi, ce n'est pas une raison pour que je te dise ce que tu n'as pas besoin de savoir, à moins que tu ne le souhaites, pour ne pas douter de mon amitié.
« Tu en feras ce que tu voudras, » lui répondis-je. « S'il est utile pour toi que je sache les conséquences de ta batterie avec Malzac, dis-les-moi. Quand même, j'aurai regret à les entendre. Sinon, j'aime autant ne pas trop savoir ce qu'il est devenu. »
« Ce qu'il est devenu ?» répéta Huriel, dont la voix sembla étouffée par un grand malaise. Et il m'arrêta aux premières branches que le chêne étendait vers nous, comme s'il eût craint de marcher sur un terrain où je ne voyais pourtant nulle trace de ce que je commençais à deviner. Puis il ajouta, en jetant devant lui un regard obscurci de tristesse, et parlant de ce qu'il voulait taire, comme si quelque chose le poussait à se trahir. « Tiennet, te souviens-tu des paroles glaçantes que cet homme nous a dites au bois de la roche ?»« Il ne manque pas de fosses dans les bois pour enterrer les fous, » et ni les pierres ni les arbres n'ont de langue pour raconter ce qu'ils ont vu.
« Oui, » répondis-je, sentant une sueur froide me passer par tout le corps. « Il paraît que les mauvaises paroles tentent le mauvais sort, et qu'elles portent malheur à ceux qui les disent. »
16e veillée. Huriel se signa en soupirant. Je fis comme lui, et nous détournant de ce mauvais arbre, nous passâmes notre chemin. J'aurais voulu lui dire, comme le carme, quelques bonnes paroles pour le tranquilliser, car je voyais bien qu'il avait l'esprit en peine. Mais, outre que je n'étais pas assez savant pour le prêche, je me sentais coupable aussi à ma manière. Je me disais, par exemple, que si je n'eusse point raconté tout haut l'histoire du bois de la roche, Huriel ne se serait peut-être pas si bien souvenu du serment qu'il avait fait à Brulette de la venger, et que si je ne me fusse point porté le premier son défenseur devant les muletiers et les anciens de la forêt, Huriel ne se serait pas tant pressé d'en avoir l'honneur avant moi vis-à-vis d'elle. Tourmenté de ces idées, je ne pus m'empêcher de les dire à Huriel et de m'accuser devant lui, comme Brulette s'était accusée devant Thérence. « Mon cher ami Tiennet, me répondit le muletier, tu es un bon cœur et un brave garçon. Je ne veux point que tu gardes du trouble en ta conscience, pour une chose que Dieu, au jour du jugement, n'attribuera ni à toi ni peut-être à moi. Le frère Nicolas a raison. Il est le seul juge qui puisse rendre bonne justice, parce qu'il sait les choses comme elles sont. Il n'a pas besoin d'appeler des témoins et de faire enquête de la vérité. Il lit dans le fin fond des cœurs. Et il sait bien que le mien n'avait juré ni comploté mort d'homme au moment où j'ai pris un bâton pour corriger ce malheureux. Ces armes-là sont mauvaises, mais elles sont les seules que nos coutumes nous permettent en pareil cas. Et ce n'est pas moi qui en ai inventé l'usage. Certes, mieux vaudrait la seule force des bras et le seul office des poings, comme nous y avons eu recours une nuit dans ton pré, à propos de mon mulet et de ton avoine. Mais sache qu'un muletier doit être aussi brave et aussi jaloux de son renom d'honneur que les plus grands messieurs portant l'épée. Si j'avais avalé l'injure de Malzac sans en chercher réparation,
j'aurais mérité d'être chassé de ma confrérie. Il est bien vrai que je n'ai pas cherché cela de sang-froid, comme on doit le faire. J'avais rencontré, hier matin, ce Malzac seul à seul, dans ce même bois de la Roche, où je travaillais tranquillement, sans plus songer à lui. Il m'avait encore molesté de ses sottes paroles, prétendant que Brulette n'était qu'une ramasseuse de bois mort. Ce qui, chez les forestiers, s'entend d'un fantôme qui court la nuit, et dont la croyance sert souvent aux filles de mauvaise conduite pour n'être point reconnues, grâce à la peur que les bonnes gens ont de cet esprit follet. Aussi, dans l'idée des muletiers, qui ne sont point crédules, un pareil mot est une grande injure. Pourtant, je fus aussi endurant que possible. Mais, à la fin, poussé à bout, je lui fis des menaces pour m'en débarrasser. Il me répondit alors que j'étais un lâche, capable d'abuser de ma force en un endroit écarté, mais que je n'oserais pas le défier au bâton, en franche bataille, devant témoins. Que chacun savait bien que je n'avais jamais eu occasion de marquer ma hardiesse, et que là où il y avait compagnie, j'étais toujours du goût de tout le monde, afin de n'avoir point à me mesurer en partie égale. Là-dessus, il me quitta, disant qu'il y avait danse au bois de Chambérat, que c'était Brulette qui régalait et qu'elle en avait le moyen, attendu qu'elle était maîtresse d'un gros bourgeois en son pays, et que, pour sa part, il irait là se divertir et courtiser la demoiselle à ma barbe, si j'avais le cœur de m'en venir assurer. Tu sais, Tiennet, que j'avais intention de ne plus revoir Brulette, et cela pour des raisons que je te dirai peut-être plus tard. « Je les sais, répondis-je, car je vois que tu as vu ta sœur cette nuit, et voilà à ton oreille un gage qui dépasse ton mouchoir et qui me prouve ce dont j'avais déjà une forte doutance. Si tu sais que j'aime Brulette et que je tiens à son gage, reprit Huriel, tu en sais autant que moi. Mais tu ne peux en savoir davantage, car je ne suis sûr que de son amitié, et quant au reste... Mais il ne s'agit pas de ça, et je te veux raconter comment le malheur m'a ramené ici. Je ne voulais ni être vue de Brulette, ni lui parler, parce que j'avais remarqué le tourment qui serrait le cœur de Joseph à mon endroit. Mais je savais que Joseph n'avait pas ses forces pour la défendre, et que Malzac était assez sournois pour s'échapper aussi de toi. Je suis donc venue ici au commencement de la fête, et je me suis tenue cachée aux alentours de la danse, me promettant de partir sans me faire voir si Malzac n'y venait point. Tu sais le reste, jusqu'au moment où nous avons pris le bâton. Dans ce moment-là, j'étais en colère, je le confesse, mais pouvait-il en être autrement, à moins de valoir autant qu'un saint du paradis? Cependant, je ne voulais que donner une correction à mon ennemi, et ne pas laisser dire plus longtemps, surtout dans un moment où Brulette était au pays, qu'à force d'être doux et patient, j'étais un lièvre. Tu as vu que mon père, qui est là de pareils propos, ne m'a pas empêché de prouver que je suis un homme. Mais il faut que je sois doué d'une mauvaise chance, puisqu'à mon premier combat, et quasi de mon premier coup... Ah, tiennet, on a beau avoir été forcé et sentir en soi-même qu'on est doux et humain... On ne se console pas aisément, j'en ai peur, d'avoir eu la main si mauvaise. Un homme est un homme, si mal appris et mal embouché qu'il soit. Celui-là était peu de chose de bon, mais il aurait eu le temps de s'amender. Et voilà que je l'ai envoyé rendre ses comptes avant qu'il les eût mis en ordre. Aussi, Tiennet, tu me vois, je t'assure, bien dégoûté de l'état de muletier. Et je reconnais à présent, avec Brulette, qu'il est malaisé à un homme juste et craignant Dieu de s'y maintenir en estime avec sa conscience et l'opinion des autres. Je suis obligé d'y passer encore un temps, à cause des engagements que j'ai pris. Mais tu peux compter que le plus tôt possible, je m'en retirerai et prendrai quelque autre métier plus tranquille. « C'est là, dis-je à Huriel, ce que je dois rapporter à Brulette, est-ce pas ?»« Non. » répondit Huriel avec une grande assurance. à moins que Joseph ne soit si bien guéri de son amour et de sa maladie qu'il puisse renoncer à elle. J'aime Joseph autant que vous l'aimez, mes bons enfants. Et d'ailleurs, il m'a fait ses confidences. Il m'a pris pour son conseil et son soutien. Je ne le veux pas tromper, ni contrecarrer. Mais Brulette ne veut pas de lui pour amant et mari, et peut-être vaudrait-il mieux qu'il le sût le plus tôt possible. Je me chargerai bien de le raisonner, si les autres n'osaient, et il y a chez vous une personne qui pourrait rendre Joseph heureux, tandis qu'il ne le sera point par Brulette. Il aura beau attendre, plus il se flattera, plus le coup lui paraîtra dur à porter. Au lieu que, s'il ouvrait les yeux sur la véritable attache qu'il peut trouver ailleurs... « Laissons cela, » répondit Huriel en fronçant un peu le sourcil, ce qui lui fit faire la grimace d'un homme qui souffre d'un grand trou à la tête, comme il l'avait justement tout frais sous son mouchoir rouge. « Toutes choses sont en la main de Dieu, et dans notre famille, personne n'est pressé de faire son bonheur aux dépens de celui des autres. » Il faut, quant à moi, que je parte, car je répondrai trop mal aux gens qui me demanderaient où a passé Malzac et pourquoi on ne le voit plus au pays. Écoute seulement encore un mot sur Brulette et sur Joseph. Il est bien inutile de leur dire le malheur que j'ai fait. Excepté les muletiers, il n'y a que mon père, ma sœur, le moine et toi, qui sachiez que quand l'homme est tombé, c'était pour ne plus se relever. Je n'ai eu que le temps de dire à Thérence tout bas « Il est mort, il faut que je quitte le pays. » Maître Archignat en a dit autant à mon père, mais les autres bûcheux n'en savaient rien et ne souhaitaient point le savoir. Le moine lui-même n'y aurait vu que du feu s'il ne nous eût suivis pour porter secours aux blessés, et les muletiers étaient tentés de le renvoyer sans lui rien dire. Mais le chef a répondu de lui, et moi, quand j'aurais dû y risquer mon coup, je ne voulais pas que cet homme fût enterré comme un chien, sans prière chrétienne. À présent, c'est à la garde de Dieu. Tu comprends donc, de reste, qu'un homme menacé, comme je suis, d'une mauvaise affaire, ne peut pas, de longtemps, songer à courtiser une fille aussi recherchée et aussi précieuse que Brulette. Seulement, tu peux bien, pour l'amour de moi, ne pas lui dire où j'en suis. Je veux bien qu'elle m'oublie, mais non qu'elle me haïsse ou me craigne.
« Elle n'en aurait pas le droit, » répondis-je,
« puisque c'est pour l'amour d'elle. » « Ah !» dit Huriel en soupirant et en passant sa main sur ses yeux. « Voilà un amour qui me coûte cher. »«
Allons, allons !» lui dis-je. « Du courage. Elle ne saura rien. Tu peux compter sur ma parole. »
Et tout ce que je pourrais faire pour qu'à l'occasion elle reconnaisse ton mérite, je le ferai bien fidèlement.
« Doucement, doucement, tiennée, » reprit Huriel.
« Je ne te demande pas de te mettre de côté pour moi, comme je m'y suis mis pour Joseph. Tu ne me connais pas autant, tu ne me dois pas la même amitié, et je sais ce que c'est que de pousser un autre en la place qu'on voudrait occuper. Tu en tiens aussi pour Brulette. » Et il faudra que sur trois prétendants que nous sommes, deux soient justes et raisonnables quand le troisième sera préféré. Encore ne savons-nous point si nous ne serons pas pillés par un quatrième. Mais quoi qu'il en advienne, j'espère que nous resterons amis et frères, tous les trois.
Il faut me retirer de l'ordre des prétendants, répondis-je en souriant sans dépit.
J'ai toujours été le moins emporté. Et à présent, je suis aussi tranquille que si je n'y avais jamais songé. Je sais le secret du cœur de cette belle. Je trouve qu'elle a fait le bon choix et j'en suis content. Adieu donc, mon Huriel. Que le bon Dieu t'assiste et que l'espérance t'aide à oublier cette mauvaise nuit. Nous nous donnâmes l'accolade du départ et je m'enquis du lieu où il se rendait. « Je m'en vas, » dit-il, « jusqu'aux montagnes du Forêt. Fais-moi écrire au bourg d'Huriel, qui est mon lieu de naissance, et où nous avons des parents établis. Ils me feront passer tes lettres. »«
Mais pourras-tu voyager si loin avec cette plaie à la tête? N'est-elle point dangereuse ?»«
Non, non, » dit-il, « ce n'est rien, et j'aurais souhaité que l'autre eût la tête aussi dure que moi. » Quand je me trouvais seule, je m'étonnais de tout ce qui était advenu en la forêt, sans que j'en eusse ouï ou surpris la moindre chose. D'autant plus que, repassant au grand jour sur la place de la danse, je vis que, depuis le minuit, on était revenu faucher l'herbe et piocher la terre pour enlever toute trace du malheur qui était arrivé. Ainsi, d'une part, on était venu par deux fois raccommoder les choses en cet endroit. De l'autre, Thérence avait communiqué avec son frère, et au milieu de tout cela, on avait pu faire un enterrement, sans que, malgré la nuit claire et le silence des bois, en les suivant dans toute leur longueur et en prêtant grande attention, j'eusse été averti par la moindre apparence et le moindre souffle. Cela me donna bien à penser sur la différence des habitudes et, partant, des caractères entre les gens forestiers et les laboureurs des pays découverts. Dans les plaines, le bien et le mal se voient trop pour qu'on n'apprenne pas de bonne heure à se soumettre aux lois et à se conduire suivant la prudence. Dans les forêts, on sent qu'on peut échapper au regard des hommes, et on ne s'en rapporte qu'au jugement de Dieu ou du diable, selon qu'on est bien ou mal intentionné. Quand je regagnais les loges, le soleil était levé. Le grand bûcheux était parti pour son ouvrage. Joseph dormait encore. Thérence et Brulette causaient ensemble sous le hangar. Elles me demandèrent pourquoi je m'étais levée si matin, et je vis que Thérence était inquiète de ce que j'avais pu voir et apprendre. Je fis comme si je ne savais rien et comme si je n'avais pas quitté le bois de l'Alleu. Joseph vint bientôt nous rejoindre, et j'observai qu'il avait beaucoup meilleure mine qu'à notre arrivée. « Je n'ai pourtant guère dormi, » répondit-il. « Je me suis senti agitée jusqu'à l'approche du jour. » Mais je crois que c'est parce que la fièvre, qui m'a tant accablée, m'a enfin quittée depuis hier soir, car je me sens plus fort et plus dispos que je ne l'ai été depuis longtemps. » Thérence, qui se connaissait à la fièvre, lui questionna le pouls, et la figure de cette belle, qui était bien fatiguée et abattue, s'éclaircit tout d'un coup. « Allons, » dit-elle. Le bon Dieu nous envoie au moins ce bonheur, que voilà un malade en bon chemin pour guérir. La fièvre est partie, et les forces du sang reviennent déjà. S'il faut que je vous dise ce que j'ai senti, reprit Joseph, ne dites pas que c'est une songerie, mais voici la chose. D'abord, apprenez-moi si Uriel est parti sans blessure, et si l'autre n'en a pas plus qu'il ne faut. Avez-vous reçu des nouvelles du bois de Chambéra? « Oui, oui, » répliqua vivement Thérence. « Tous deux sont partis pour le haut pays. Dites ce que vous alliez dire. »« Je ne sais pas trop si vous le comprendrez, vous deux, » reprit Joseph s'adressant aux jeunes filles. « Mais voilà Tiennet qui l'entendra bien. En voyant hier notre Uriel se battre si résolument, les jambes m'ont manqué. Et me sentant plus faible qu'une femme, j'aurais pour un rien perdu ma connaissance. » Mais, en même temps que mon corps s'en allait défaillant, mon cœur devenait chaud, et mes yeux ne lâchaient point de regarder le combat. Quand Uriel a abattu son homme, et qu'il est resté debout, il m'a passé un vertige, et si je ne me fusse retenue, j'aurais crié victoire, et mêmement chanté comme un fou, ou comme un homme pris de vin. J'aurais couru l'embrasser si j'avais pu. Mais tout s'est dissipé, et en revenant ici, j'étais brisée dans tous mes os, comme si j'eusse porté et reçu les coups. « N'y pensez plus, » dit Thérence. « Ce sont de vilaines choses à voir et se remémorer. Je gage que vous en avez mal rêvé ce matin. »« Je n'en ai rêvé ni bien ni mal, » dit Joseph. « J'y ai songé et me suis sentie peu à peu tout réveillée dans mes idées et tout raccommodée dans mon corps. » Comme si l'heure était venue pour moi d'emporter mon lit et de marcher, à la manière de ce paralytique dont il est parlé aux évangiles. Je voyais Uriel devant moi, tout brillant de lumière, et me reprochant ma maladie comme une lâcheté de mon esprit. Il avait l'air de me dire « Je suis un homme et tu n'es qu'un enfant. Tu trembles la fièvre pendant que mon sang est en feu. Tu n'es bon à rien, et moi je suis bon à tout pour les autres et pour moi-même. Allons, allons, écoute cette musique. » Et j'entendais des airs qui grondaient comme l'orage et qui m'enlevaient sur mon lit, comme le vent enlève les feuilles tombées. Tenez, Brulette, je crois que j'ai fini d'être lâche et malade, et que je pourrais à présent aller au pays, embrasser ma mère et faire mon paquet pour partir, car je veux voyager, apprendre et me faire ce que je dois être. « Vous voulez voyager ?» dit Thérence, qui s'était allumée de contentement comme un soleil et qui redevint blanche et brouillée comme la lune d'automne. « Vous espérez trouver un meilleur maître que mon père et de meilleurs amis que les gens d'ici ? Allez voir vos parents, vous ferez bien si vous en avez la force. Mais à moins que vous n'ayez envie de mourir au loin... » Le chagrin ou le mécontentement lui coupèrent la parole. Joseph, qui l'observait, changea tout de suite de mine et de langage. « Ne faites pas attention à ce que je rêvais ce matin, Thérence, lui dit-il. « Jamais je ne trouverai meilleur maître ni meilleurs amis. Vous m'avez dit de vous raconter mes songes. Je vous les raconte, voilà tout. Quand je serai guéri, je vous demanderai conseil à vous trois, ainsi qu'à votre père. » Jusque-là, ne pensons point à ce qui peut me passer par la tête et réjouissons-nous du temps que nous sommes ensemble. » Thérence s'apaisa. Mais Brulette et moi, qui connaissions bien comme Joseph était décidé et entêté sous son air doux, nous, qui nous souvenions de la manière dont il nous avait quittés, sans rien contredire et sans se laisser rien persuader, nous pensâmes que son parti était pris et que personne n'y pourrait rien changer. Pendant les 2 jours qui s'ensuivirent, je recommençai de m'ennuyer, et Brulette pareillement, malgré qu'elle se dégagea beaucoup pour achever la broderie dont elle voulait faire don à Thérence, et qu'elle alla voir le grand bûcheux souvent, tant pour laisser Joseph aux soins de la fille des bois, que pour parler d'Uriel avec son père, et consoler ce brave homme de la tristesse et de la crainte où l'avait mis la bataille. Le grand bûcheux, touché de l'amitié qu'elle lui marquait, eut la confiance de lui dire toute la vérité sur Malzac. Et loin que Brulette en voulût mal à Uriel, comme celui-ci l'avait redouté, elle ne s'en attacha que mieux à lui, par l'intérêt qu'elle lui portait et la reconnaissance qu'elle lui devait. Le 6e jour, on parla de se séparer, car le temps approchait et il fallait s'occuper du départ. Joseph reprenait à vue d'œil. Il travaillait un peu et faisait de tout son mieux pour vitement éprouver et ramener ses forces. Il était décidé à nous reconduire et à passer 1 ou 2 jours au pays, disant qu'il reviendrait au bois de l'Alleu tout de suite, ce qui ne nous paraissait pas bien certain, non plus qu'à Thérence, qui commençait à s'inquiéter de sa santé quasi autant qu'elle s'était inquiétée de sa maladie. Je ne sais si ce fut elle qui persuada au grand bûcheux de nous reconduire jusqu'à mi-chemin, ou si l'idée lui en vint de lui-même, mais il nous en fit l'offre, qui fut bien vite acceptée de Brulette, et ne plut qu'à moitié à Joseph, encore qu'il n'en fit rien voir. Ce bout de voyage ne pouvait que donner au grand bûcheux une diversion à son chagrin. Et, en s'y préparant, la veille du départ, il reprit une bonne partie de sa belle humeur. Les muletiers avaient quitté le pays sans encombre, et il n'y était point question de Malzac, qui n'avait ni parents ni amis pour le réclamer. Il pouvait donc bien se passer 1 an ou 2 avant que la justice se tourmentât de ce qu'il était devenu. Et encore, était-elle bien capable de ne s'en enquérir jamais? Car dans ce temps-là, il n'y avait pas grand police en France, et un homme de peu pouvait disparaître sans qu'on y prît garde. De plus, la famille du grand bûcheux devait quitter l'endroit à la fin de la saison, et comme ni le père ni le fils ne se tenaient plus de 6 mois au même lieu, il eût fallu être habile pour savoir où les réclamer. Pour toutes ces raisons, le grand bûcheux, qui ne craignait que le premier contre-coup de l'événement, voyant que le secret ne s'ébruitait point, reprit confiance et nous rendit le courage. Le matin du 8e jour, il nous fit tous monter dans une petite charrette basse qu'il avait empruntée, ainsi qu'un cheval, à un sien ami de la forêt, et, prenant les rênes, nous conduisit par le plus long, mais par le plus sûr chemin, jusqu'à Sainte-Sevère, où nous devions prendre congé de lui et de sa fille. Brulette regrettait, en elle-même, de passer par un pays nouveau, où elle ne revoyait aucun des endroits où elle avait cheminé en la compagnie d'Uriel. Pour moi, j'étais content de voyager et de voir Saint-Palais en Bourbonnais et Préverange, qui sont petits bourgs sur grande hauteur. Puis Saint-Projet et Pérasset, qui sont autres bourgs en descendant le courant de l'Indre. Et comme nous suivions, quasi depuis sa source, cette rivière qui passe chez nous, je ne me trouvais plus si étrange et ne me sentais plus en un pays perdu. Je me reconnus tout à fait à Sainte-Sevère, qui n'est plus qu'à 6 lieues de chez nous, et où j'étais déjà venu une fois. Là, du temps que mes compagnons de route parlaient d'adieu, je fus m'enquérir d'une voiture à louer pour continuer notre voyage. Mais je ne pus en trouver une que pour le lendemain, aussi matin que je le souhaiterais. Quand j'en revins lire la nouvelle, Joseph prit de l'humeur. « Quoi donc faire d'une charrette ? » dit-il. « Ne pouvons-nous, de notre pied, nous en aller chez nous à la fraîcheur et arriver sur la tardée du soir ? Brulette a fait souvent plus de chemin pour aller danser à quelque assemblée, et je me sens tout capable d'en faire autant qu'elle. » Thérence observa qu'une si longue course lui ferait revenir la fièvre, et il s'y obstina d'autant plus. Mais Brulette, qui voyait bien le chagrin de Thérence, coupa court en disant qu'elle se sentait lasse, qu'elle serait aise de passer la nuit à l'auberge et de s'en aller ensuite en voiture. « Eh bien, dit le grand bûcheux, nous ferons de même. Nous laisserons reposer notre cheval toute la nuit et nous nous départirons de vous autres au jour de demain. Et si vous m'en croyez, au lieu de nous restaurer en cette auberge pleine de mouches, nous emporterons notre dîner sous quelques feuillades ou au bord de l'eau et y passerons la soirée à deviser jusqu'à l'heure de dormir. » Ainsi fut fait. Je retins 2 chambres, l'une pour les filles, l'autre pour les hommes. Et voulant régaler une bonne fois le père Bastien à mon idée, m'étant aperçu qu'à l'occasion il était beau mangeur, je fis remplir une grande corbeille de ce qu'il y avait de mieux en pâté, pain blanc, vin et brandevin, et l'emporter au dehors de la ville. Il est heureux que la mode de boire le café et la bière ne régnât pas encore, car je n'y aurais pas regardé, et y eusse laissé le restant de ma poche. Sainte-Sévère est un bel endroit, coupé en ravins bien arrosés et réjouissant à la vue. Nous fîmes choix d'un tertre élevé, où l'air était si vif que du repas il ne resta ni une croûte ni une verrée de boisson. Après quoi, le grand bûcheux, se sentant tout gaillard, prit sa musette, qui ne le quittait jamais, et dit à Joseph « Mon enfant, on ne sait qui vit ou qui meurt. Nous nous quittons, selon toi, pour 2 ou 3 jours. Selon moi, tu as l'idée d'une plus longue départie. Mais peut-être que, selon Dieu, nous ne devons point nous revoir. Voilà ce qu'il faut toujours se dire, quand, au croisement d'un chemin, chacun tire de son côté. J'espère que tu t'en vas content de moi et de mes enfants, comme je suis content de toi et de tes amis qui sont là. Mais je n'oublie point que le principal a été de t'enseigner la musique, et j'ai regret aux 2 mois de maladie qui t'ont forcé de t'arrêter. Je ne prétends pas que j'aurais pu faire de toi un grand savant. Je sais qu'il y en a dans les villes, messieurs et dames, qui sonnent sur des instruments que nous ne connaissons pas, et qui lisent des airs écrits, comme on lit la parole écrite dans les livres. Sauf le plein chant, que j'ai appris dans ma jeunesse, je ne connais pas beaucoup cette musique-là, et t'en ai montré tout ce que je savais, c'est-à-dire les clés, les notes et la mesure. Quand tu auras envie d'en connaître plus long, tu iras dans les grandes villes, où les violonneurs t'apprendront le menuet et la contredanse. Mais je ne sais pas si ça te servira, à moins que tu ne veuilles quitter ton pays et ta condition de paysan. « Dieu m'en garde !» répondit Joseph en regardant Brulette. « Or donc, reprit le grand bûcheux, tu trouveras ailleurs l'instruction qu'il te faut pour sonner la musette ou la vielle. Si tu veux revenir à moi, je t'y aiderai. Si tu crois trouver du nouveau dans le pays d'en su, il faut y aller. Tout ce que j'aurais souhaité, c'est de te mener tout doucement jusqu'au temps où ton souffle saura se donner sans effort et où tes doigts ne se tromperont plus. Car pour l'idée, ça ne se donne point, et tu as la tienne, que je sais être de bonne qualité. Je ne t'ai pas épargné la provision que j'ai dans la tête, et ce que tu auras retenu, tu t'en serviras s'il te plaît. Mais comme ton vouloir est de composer, tu ne peux mieux faire que de voyager, un jour ou l'autre, pour tirer la comparaison de ton fonds avec celui d'autrui. Il te faut donc monter jusqu'à l'Auvergne et aux forêts, afin de voir de l'autre côté de nos vallons comme le monde est grand et beau, et comme le cœur s'élargit quand, du haut d'une vraie montagne, on regarde rouler des eaux vives qui couvrent la voie des hommes et font verdir des arbres qui ne déverdissent jamais. Ne descends pourtant guère dans les plaines des autres pays. Tu y retrouverais ce que tu aurais laissé dans les tiennes. Car voici le moment de te donner un enseignement que tu ne dois pas oublier. Écoute-le donc bien fidèlement.